Vous écoutez On lit pour vous. La route de la soie scientifique de la Chine et l'avenir de la science mondiale. Un texte de Hang Zhu et Han Cheng paru le 11 juin 2026 dans la presse. La science est devenue l'un des principaux terrains de coopération et de compétition internationale au 21e siècle. Pendant plusieurs décennies, les institutions et chercheurs d'Amérique du Nord et d'Europe ont dominé le système scientifique mondial, influençant les priorités de recherche, les mécanismes de financement et les structures de gouvernance. Aujourd'hui, cet équilibre évolue rapidement sous l'effet de la montée en puissance de la Chine. Hang Zhu est professeur membre de l'École supérieure d'études internationales et adjoint au département de sciences politiques de l'Université Laval. Han Cheng est professeur membre de l'École supérieure d'études internationales et chercheur principal à l'Institut Max Planck d'histoire des sciences. Lancée en 2013, l'initiative des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, BRI, est généralement associée aux investissements chinois dans les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications. Une dimension moins connue mérite toutefois une attention particulière. La route de la soie scientifique, Science Silk Road, qui vise à renforcer les capacités de recherche, d'innovation et de coopération scientifique dans les pays partenaires. Une stratégie de coopération scientifique mondiale. L'ampleur de cette initiative est considérable. Des chercheurs chinois participent à la création de centres de données en Asie du Sud-Est, au développement de technologies de villes intelligentes en Afrique, à des programmes de recherche climatique en Amazonie, ainsi qu'à des projets spatiaux en Asie centrale. Ces collaborations favorisent l'émergence de nouvelles infrastructures scientifiques et de réseaux internationaux de recherche en dehors des sphères d'influence traditionnelles de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Pour de nombreux pays du Sud global, ces partenariats offrent des avantages concrets, accès à des financements, à des équipements de pointe, à des laboratoires, à des bourses d'études et à des programmes de formation. Ils constituent également un levier de développement économique et technologique permettant une meilleure intégration aux réseaux mondiaux de production des connaissances. Sous cet angle, la route de la soie scientifique apparaît autant comme une stratégie de développement que comme un projet géopolitique. De nouvelles questions sur la gouvernance de la science. Cette dynamique soulève toutefois des interrogations importantes quant à l'avenir du système scientifique mondial. Certains observateurs estiment que la route de la soie scientifique pourrait diffuser un modèle de recherche accordant un rôle plus important à l'État dans la définition des priorités scientifiques et le développement des institutions de recherche. L'enjeu ne concerne donc pas seulement les lieux où la science est produite, mais aussi les façons dont elle est financée, gouvernée et pratiquée. Ces questions sont particulièrement importantes dans les domaines liés aux données et aux infrastructures numériques. La recherche dépend désormais de vastes ensembles de données, de plateformes infonuagiques, de systèmes d'intelligence artificielle et de réseaux satellitaires. À mesure que la présence scientifique chinoise s'étend à l'étranger, des débats émergent sur la propriété des données, leur gouvernance, la cybersécurité et les normes technologiques qui encadrent leur utilisation. Vers un système scientifique plus multipolaire. La route de la soie scientifique s'inscrit également dans un contexte géopolitique marqué par la détérioration progressive des relations entre la Chine et les États-Unis. Cette rivalité touche désormais non seulement le commerce et les technologies stratégiques, mais aussi les échanges universitaires et la coopération scientifique. Un éditorial récent de la revue Nature 2 soulignait que le rapprochement scientifique entre la Chine et les pays participant à la BRI pourrait favoriser l'émergence de systèmes scientifiques parallèles, l'un centré sur l'Amérique du Nord et l'Europe, l'autre davantage structuré autour de la Chine. Toutefois, réduire cette évolution à une opposition entre la Chine et l'Occident serait simpliste. Le système scientifique mondial devient de plus en plus multipolaire. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite, Singapour et les Émirats arabes unis investissent massivement dans la recherche et l'innovation afin de devenir des pôles régionaux et internationaux du savoir. Dans cette perspective, la route de la soie scientifique s'inscrit dans une reconfiguration plus large des centres de pouvoir scientifique à l'échelle mondiale. Quels enjeux pour le Canada? Ces transformations concernent directement le Canada. La réussite scientifique canadienne repose depuis longtemps sur l'ouverture internationale, la mobilité des talents et la participation à des réseaux mondiaux de recherche. Or, les équilibres qui ont soutenu ce système évoluent rapidement. Pour les décideurs canadiens, l'enjeu n'est ni de considérer la route de la soie scientifique comme une menace, ni de la voir uniquement comme une occasion à saisir. Il s'agit plutôt de comprendre comment les nouvelles infrastructures scientifiques, les partenariats émergents et les réseaux de recherche redessinent la géographie mondiale du savoir. Cette compréhension sera essentielle pour élaborer des politiques efficaces en matière de science, d'innovation et de relations internationales. Qui définira les règles de la science mondiale? Au fond, la route de la soie scientifique soulève une question fondamentale. Qui définira les règles, les normes et les priorités de la science mondiale au 21e siècle? À mesure que de nouveaux centres d'influence émergent et que les réseaux internationaux de recherche se diversifient, la réponse à cette question contribuera à façonner non seulement l'avenir de la science, mais aussi celui de la coopération internationale. C'était « La route de la soie scientifique de la Chine et l'avenir de la science mondiale », un texte de Hang Zhu, paru le 11 juin 2026 dans la presse.
On ne peut être surpris. Le fil rouge du racisme. Un texte de Maître Tamara Termitus, paru le 16 juin 2026 dans La Presse. Les événements des derniers jours tendent à nous forcer, comme société, à dénoncer le racisme systémique et à se doter des moyens pour éliminer toutes ses formes, indique l'autrice. Maître Tamara Termitus est une avocate émérite, récipiendaire du Grand Prix du journalisme indépendant en 2025. Elle a négocié les termes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Combien de fois ai-je entendu que le racisme appartient au passé et que les générations futures, élevées dans la diversité, le verront s'éteindre de lui-même. Cet argument réconfortant comporte des angles morts. On ne règle jamais un problème qu'on refuse de nommer. Le racisme n'est pas un simple préjugé que la fréquentation suffirait à dissoudre. C'est une architecture de pouvoir. Le nier n'a donc rien de neutre. C'est un déni qui contraint les personnes visées à douter de ce qu'elles vivent, déni qui est en soi du racisme. Trois événements survenus au Québec ces dernières semaines le démontrent. On voudra les croire isolés, étrangers les uns aux autres, or ils forment un continuum, du trottoir jusqu'à l'appareil d'État. On aime d'ailleurs leur opposer le racisme caricatural, marginal, haineux. Cette frontière est une fiction commode. Or, le racisme n'a pas besoin de convictions extrémistes pour opérer. Il lui suffit d'habitude, de silence et d'institutions qui ferment les yeux, qui se bouchent les oreilles, pour finalement se taire. Le racisme ordinaire. Un après-midi de février 2026, au cœur du plateau Mont-Royal, pendant le mois de l'histoire des Noirs, un adolescent, appelons-le Zach, m'a interpellé avec le mot en haine, un mot qui porte l'idéologie raciale. Il n'était pas seul. Deux amis l'accompagnaient. Cette complicité silencieuse n'a rien d'anodin. Elle révèle que ce mot n'est pas une déviance individuelle, mais un comportement sociétal qui se transmet et se reproduit. Quand je l'ai confronté, sa riposte a couplé l'insulte raciale au mépris sexiste, voulant réduire au silence une femme noire qui ose se défendre. Voilà le racisme sous son visage le plus banal, celui qui se croit sans conséquence parce qu'il ne porte ni la cagoule ni l'uniforme de la loi et l'ordre. Le racisme public. Le 30 mai 2026, au parc des vétérans de Shawinigan, une vingtaine d'individus cagoulés ont brandi une banderole. « Je me souviens d'un Québec blanc. » Ce détournement de notre devise nationale vise à réécrire la mémoire collective en excluant une partie de la population afin de transformer le « nous » en forteresse. La classe politique et le gouvernement, qui a, pendant deux mandats, refusé de reconnaître le racisme systémique, ont fait preuve d'indignation en parlant d'actes isolés. Vraiment? En outre, l'indignation ponctuelle est une piètre réponse face au racisme systémique, créant un terreau fertile aux manifestations de racisme décomplexé. Là où le racisme ordinaire se dissimule derrière la spontanéité, ici, il s'organise, se met en scène et se revendique. De plus, on ne peut faire fi des symboles déployés lors de cette manifestation. Les cagoules blanches sont une référence à peine voilée au Ku Klux Klan qui était présent aussi au Canada. Qu'on se le tienne pour dit, le racisme n'a pas de frontières. Le racisme institutionnel. Il y a plus. Le 12 juin 2026, le SPVM confirmait que 16 policiers du poste 39 de Montréal-Nord font l'objet d'une enquête pour des gestes racistes et haineux commis envers des personnes noires et arabes lors d'interpellations. Deux d'entre eux sont suspendus et pourraient être accusés au criminel. Leurs collègues ont dénoncé ces comportements racistes. Ce scandale atteint le cœur même de l'État de droit. L'État détient le monopole de la violence légitime. Lui seul peut juger, punir et légiférer. Lui seul peut, dans des limites strictes, recourir à la contrainte. Or, cette force n'est tolérable que si la population la perçoit comme légitime. Les policiers ne possèdent pas ce pouvoir en propre. L'État le leur a confié. Ils ne peuvent donc, en aucun cas, l'exercer de manière discriminatoire. Cette obligation de l'État s'applique non seulement en matière criminelle, mais aussi en matière administrative ou civile. Lorsque certains policiers traitent une partie des citoyens comme des citoyens de seconde zone en raison de leur couleur et font fi des principes fondamentaux, ils ne commettent pas de simples fautes individuelles. Ils corrompent la légitimité de l'institution tout entière. C'est alors la confiance publique qui s'effondre. Un rapport de pouvoir. L'adolescent, la foule cagoulée, les policiers. Ces trois visages ne relèvent pas de la pomme pourrie. Ils découlent de la même logique. Le racisme est un rapport de pouvoir qui investit toutes les structures à chaque échelon, en se nourrissant du déni d'humanité des autres. Tant que l'État québécois refusera de nommer le racisme systémique, il entretiendra le vide normatif, socle du statu quo. Quand le discours officiel efface la race du champ des possibles et du champ juridique, alors que l'esclavage a existé en Nouvelle-France et que les personnes noires demeurent, depuis 2020, le groupe le plus ciblé par les crimes haineux au pays, le déni cesse d'être une simple omission. Il devient complice. Depuis les deux derniers mandats, le gouvernement a fait la sourde oreille. Et voilà, nous avons perdu 8 ans pour reconnaître l'humanité de tous et toutes. Nommer le racisme, ce n'est pas accuser tout un peuple. C'est refuser de fabriquer des actes, de banaliser les banderoles, d'ignorer les dérives policières. Il n'est pas trop tard. Le premier geste, le plus simple et, curieusement, le plus difficile, demeure le geste que l'on s'obstine à ne pas faire. Reconnaître le racisme systémique. Puis, le combattre dans nos lois, nos institutions, nos cultures organisationnelles et nos écoles, avant qu'il ne se souvienne, lui, de tout ce que nous avons préféré oublier. C'était, on ne peut être surpris, le fil rouge du racisme. Un texte de Maître Tamara Termitus, paru le 16 juin 2026 dans La Presse.
En France, le calvaire des livreurs sans papier qui font rouler l'économie. Un texte de Raphaël Miro, de l'agence France Presse, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir. En France, les plateformes de livraison de repas emploient un grand nombre d'immigrants sans papier, à l'instar de larges pans de l'économie du pays. Sur la rue Lafayette à Paris, on les voit sans cesse aller et venir sur leur vélo avec d'énormes cubes bleus ou verts pastel sur le dos. Quand ils ne sont pas en train de pédaler vers un client ou vers un restaurant, ils se regroupent pour attendre, le regard anxieusement tourné vers leur téléphone. Quand l'application ne sonne pas, on peut attendre très longtemps sans rien gagner, déplore Shaibour Rahman, un livreur à vélo rencontré par Le Devoir pendant qu'il attend sur son vélo. La nuit, on attend un peu moins longtemps, donc on fait un peu plus d'argent, explique le vingtenaire qui travaille toutes les nuits de 19h à 5h du matin. Je ne prends pas souvent de congé, dit-il en soupirant. Arrivé il y a 3 ans en France, Shaibour Rahman voudrait bien trouver un travail mieux rémunéré. Mais comme des centaines de milliers d'autres immigrants à Paris, il n'a pas de titre de séjour et n'a donc pas le droit de travailler sur le territoire français. Personne ne veut m'embaucher, explique le coursier, qui a très peu de temps pour chercher un autre travail de toute façon. 99% des livreurs sont nés à l'étranger. Selon un rapport de l'Institut national d'études démographiques paru en avril 2026, les 2/3 des milliers de coursiers travaillant pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo en France seraient des sans-papiers. Même en comptant ceux qui ont un titre de séjour, près de 99% des livreurs sont nés à l'étranger. C'est plus que dans n'importe quel autre métier, explique Marwan Alkaes Bousma, économiste à l'INED. D'après l'étude, les livreurs gagnent en moyenne 1 540 euros bruts par mois, soit 300 euros de moins que le salaire minimum, sans aucune retraite ni protection sociale, alors qu'ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine. La plupart des livreurs ont aussi des charges à payer, ajoute Marwan Bousma. Pour les coursiers sans papier en particulier, il faut trouver une personne prête à louer un compte Uber ou Deliveroo, la plupart du temps à prix fort. Tous les deux ou trois jours, l'application me demande de faire une photo pour confirmer que je suis bien mon loueur, raconte Shaibur Rahman, qui doit alors se dépêcher de le rejoindre. Chaque mois, je dois donner 40 % de ce que je gagne à mon loueur, explique pour sa part Monir, un livreur bengali venu se reposer sur la rue Lafayette. Comme la plupart des livreurs rencontrés par Le Devoir, il préfère taire son nom de famille, de crainte que son compte soit désactivé. À la fin du mois, il me reste environ 600 euros, mais je dois encore payer 160 euros pour mon vélo électrique et 200 euros pour me loger, énumère-t-il. J'ai de 130 à 140 euros pour manger et faire face aux imprévus. Le matin même, Monir a eu un accident en freinant subitement pour ne pas être heurté par une voiture. Il s'est fait mal au bras, mais il s'inquiète surtout pour le réflecteur de son vélo qui s'est brisé dans la chute. La réparation devrait me coûter environ 10 euros, dit Monir dans un soupir, en désignant le petit bout de plastique. Autrement dit, deux jours de son budget alimentaire. De part et d'autre de la rue, des dizaines de coursiers comme lui entrent et sortent de boutiques spécialisées en réparation et en location de vélos électriques, des vélos qui peuvent valoir plus de 1 000 euros chacun. Comme beaucoup de livreurs interrogés par Le Devoir, Monir ne va pas se faire soigner à l'hôpital, même quand il chute de son vélo. Les personnes qui n'ont pas de papier ont, en théorie, droit à certains soins gratuits, mais beaucoup ne sont pas en mesure de faire les démarches administratives pour y accéder, explique la docteure Séverine Bayard de l'Association Médecins du Monde, qui observe des problèmes au dos et aux muscles chez beaucoup de livreurs. À force de ne pas être soignés, le problème s'aggrave. Selon l'étude de l'INED, 43 % des livreurs présenteraient aussi des troubles de santé mentale, allant de l'anxiété aux troubles dépressifs. Une économie dépendante du secteur. Outre la livraison de repas, de larges pans de l'économie française reposent sur le travail de sans-papiers, en particulier les secteurs de la construction, de la restauration, de l'agriculture, de l'aide aux personnes âgées, de la transformation alimentaire. Les sans-papiers exercent toutes sortes de tâches pénibles, du découpage de carcasses au tri des déchets. On parle de la règle des 3D, explique Gérard Ré, responsable des travailleurs sans-papiers à la Confédération générale du travail. Dès qu'on a affaire à un métier difficile, dégueulasse ou dangereux, il y a de bonnes chances de tomber sur des travailleurs sans papier. Ce sont des métiers qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais pour lesquels les Français ne sont plus prêts à accepter les conditions de travail, indique Emmanuel Auriol, professeur à l'École d'économie de Toulouse, qui remarque que les entreprises ne se font pas emmerder par l'État quand elles emploient des sans-papiers. Elle dénonce une hypocrisie du gouvernement français qui, d'un côté, limite l'immigration régulière pour plaire aux électeurs, mais qui, de l'autre, tolère que des entreprises emploient des sans-papiers hors de toute surveillance légale. Quand on n'a pas de papier, on est obligé d'accepter n'importe quoi et on n'est pas traité de la même manière que les autres travailleurs, confie au Devoir Mamadou Doumbia, un ancien sans-papiers d'origine ivoirienne. On ne doit rien demander et on ne peut pas se plaindre s'il arrive un problème. Pendant une dizaine d'années après son arrivée en France, ce quarantenaire a enchaîné les petits boulots dans la sécurité, dans l'agriculture et surtout dans la construction. « Quand tu n'as pas de papier, tu n'existes pas », se souvient-il. « Chaque fois que tu sors de chez toi, tu as la boule au ventre parce que tu pourrais être contrôlé par la police et expulsé. » En France, la loi permet aux sans-papiers d'obtenir un titre de séjour s'ils démontrent qu'ils ont travaillé pendant au moins 12 mois. Le problème, c'est qu'il faut être capable de prouver qu'on a travaillé et que la plupart des employeurs refusent de donner des fiches de paye aux sans-papiers pour ne pas laisser de traces. En 2024, le Parlement européen a adopté une directive pour que les États présument que les travailleurs des plateformes sont des salariés et non de faux travailleurs indépendants. L'Espagne a déjà adopté une loi pour transformer les coursiers des plateformes en salariés, ouvrant ainsi la voie à une plus grande protection sociale. La France a jusqu'au 2 décembre 2026 pour s'y conformer aussi. Au Canada comme en France. Au Canada, la question du travail des sans-papiers est moins présente dans le débat public. Pourtant, selon les différentes estimations, entre 100 000 et 1 million de personnes habiteraient au pays sans avoir de permis de travail, un ordre de grandeur comparable à celui de la France. Depuis le serrage de vis concernant les travailleurs temporaires, le nombre de travailleurs sans papier pourrait avoir augmenté. Comme en France, le secteur du bâtiment emploierait des sans-papiers sans qu'il soit possible de savoir dans quelle proportion. Dans le cas des livreurs de plateforme, il y a moins de personnes sans permis de travail au Canada qu'en France, relève Émile Barry, chercheur à l'Université Concordia, qui a étudié leur situation à Montréal et à Toronto. Ça n'empêche pas que ce sont des conditions de travail très pénibles, avec un salaire qui peut être aussi bas que 2 $ l'heure, affirme le chercheur, qui note que ce sont souvent des immigrants ou des étudiants étrangers qui travaillent pour les plateformes. Sans papier ou pas, ce sont les personnes les plus vulnérables qui occupent ces emplois. C'était En France, le calvaire des livreurs sans papier qui font rouler l'économie, un texte de Raphaël Miro de l'agence France-Presse, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir.